18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 8 février et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Sur nos ondes ce soir, on va discuter littérature et politique. Politique, parce qu'il est difficile de passer à côté de la loi confortant les principes républicains, anciennement appelée loi sur le séparatisme. On en parle dans les médias depuis plusieurs mois. Elle génère de la colère et des tensions à plein de niveaux dans la société. On s'y penchera un peu plus, notamment du côté des associations. Et littérature, parce qu'on parle tout de suite d'un roman noir qui vous fait voir l'être humain d'un tout nouvel œil. En juillet 2020 est ressorti le polar La Triade du Bourreau, aux éditions Trinox. Avec comme scène de crime et scène de vie, la ville de Brest. Ce polar nous fait passer de 1989 à 2003 selon les chapitres. Il nous plonge dans la psychologie d'un meurtrier, avec une écriture toujours aussi percutante et agréable à lire. Pour en parler, on a reçu son auteur Christian Blanchard, ce matin, dans nos studios. Bonjour Christian.
Bonjour.
D'abord, je voulais revenir sur votre premier souvenir d'écriture. C'est quoi votre premier souvenir d'écriture?
Adolescence. Vous savez, le moment où on est un peu à la crise d'adolescence, on ne sait pas trop comment on est, et puis on a envie de... Enfin, moi, je me suis amusé à mettre des choses sur un papier pour essayer de sortir ce qu'il y a dans la tête. J'ai revu ça quelques années après, c'était particulièrement mauvais, ça voulait pas dire grand-chose. Mais enfin bon, voilà, c'était ma première expérience.
Oui, donc d'abord une expérimentation avant de passer vraiment à une écriture qui était plus régulière.
Oui, alors le premier livre que j'ai sorti, c'était en 2004. C'était en fin de compte de l'auto-édition avec tout ce que ça veut dire de pas bon. Alors en 2004, j'étais pas très content qu'on me dise ça. Maintenant, je suis... Alors, étant édité maintenant dans des grandes maisons d'édition, oui, ce que j'ai fait à cette époque-là n'était pas bon du tout.
Et toujours sur les prémices de l'écriture, souvent l'écriture est liée à la lecture. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, qui vous a donné envie d'écrire?
C'est pas vraiment ça. Quand j'étais gamin, je lisais Le Club des Cinq, par exemple. Et après, j'ai beaucoup plus été vers le côté science-fiction. Ça va être des vieux livres, hein, mais Asimov, Dune, enfin des choses comme ça, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais. Et d'ailleurs, je suis complètement incapable de faire de la science-fiction. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. C'est pas mon univers, en fin de compte. Au niveau du polar pur, non, c'est nu bien plus tard. Là, tout de suite, j'ai pas de choses dans la tête. Alors, j'exclus quand même les enquêtes policières, parce que c'est des choses qui m'intéressent pas. Si c'est pour suivre une enquête avec toutes les normes qui est autour, etc., ça m'intéresse pas dans la lecture, mais ça m'intéresse pas non plus dans l'écriture.
Il n'y a pas quand même un livre, parce que enfin, vous avez quand même commencé à écrire relativement tôt, à l'adolescence c'est tôt encore, il n'y a pas un livre qui vraiment vous a poussé à écrire, qui vous a tellement transporté que vous vous êtes dit il faut que moi aussi je fasse ça?
À cette époque-là, je ne lisais pas beaucoup, en fin de compte. Non, ce qui m'a vraiment mis à l'écriture, c'est que j'avais vraiment besoin de mettre des choses sur papier, enfin les choses que j'ai dans la tête, les mettre sur papier, quoi. Et c'est devenu, le roman noir est devenu naturel, en fin de compte. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément des idées très positives, et les mettre sur papier, en fin de compte, c'est une forme de, je ne vais pas dire thérapie, mais de soulagement, de choses comme ça. Alors je cherche dans le polar, ce que j'ai pu lire. J'ai lu du polar vraiment très tard, très tard, quoi. Quasiment en même temps que j'écrivais, j'en lisais, quoi. Alors, par contre, ce que je fais pas, c'est je ne lis pas quand j'écris, pour pas être influencé parce que je lis, quoi. Maintenant, à cette époque-là, c'était vraiment science-fiction, c'était tous les histoires sur les robots, c'était Barjavel, c'était des choses comme ça, quoi.
Et du coup, pour revenir un peu à votre livre, donc à votre polar, donc La Triade du Bourreau, est-ce que vous pourriez raconter l'histoire en quelques mots?
Alors, comment je peux essayer de dire ça sans trop divulguer? En fin de compte, on commence avec un archiviste. Alors, c'est à l'époque où les archivistes dans les journaux locaux ou régionaux n'étaient pas, les archives n'étaient pas faites encore au niveau informatique. Et donc, lui, son boulot, c'est de classer des journaux dans une cave, dans un sous-sol, enfin, etc. C'est un gars très solitaire. Et un jour, il y a un policier qui lui demande de faire une recherche particulière sur la disparition d'une femme. Et donc, il décide de se... Mais le policier ne lui donne pas de date précise, il lui donne quelques éléments. Et donc, il est obligé de se replonger dans toutes les archives pendant presque une dizaine d'années, même une vingtaine d'années. Et puis, c'est là que tout va se déclencher, parce qu'il va s'apercevoir que la demande du policier n'est pas anodine. C'est-à-dire que lui est vraiment concerné aussi par cette recherche-là. Et il va s'apercevoir qu'il va devenir, l'un, si ce n'est pas le personnage central de l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui est très perturbé. Hein. On le voit au fur et à mesure. Et s'il est dans un sous-sol, dans un presque un bunker, s'il est tout seul, dans le noir, on va s'apercevoir que dans sa vie personnelle, c'est à peu près la même chose.
Et justement, en parlant de la vie personnelle de cet archiviste qui s'appelle Eddie, donc, ouais. Lui, il vit avec des fourmis, avec beaucoup de fourmis. Pourquoi ces fourmis ?
Alors, là, il faut remonter sur l'origine du livre. Moi, en fin de compte, je me laisse, quand je cherche une idée, quand je cherche une idée d'écriture, quel que soit le livre, hein, celui-là est assez ancien, mais pour les nouveaux, c'est exactement pareil. Je regarde beaucoup de documentaires, je relis la presse, je regarde des films, etc. Et puis, de temps en temps, il y a un petit point, un déclic. Et pour les fourmis, c'était un documentaire sur les fourmis tueuses, c'est-à-dire il y a des fourmis qui sont relativement soft et d'autres qui sont hyper agressives. Et quand j'ai vu cette émission où il y avait justement, alors c'est en pleine nature, hein, là ça se passe dans des vivariums, mais comment j'ai vu ces fourmis complètement hyper agressives pour aller prendre en possession le territoire d'une fourmi beaucoup plus cool, je me suis dit, ouais, il y a un truc, ouais, une perversion, etc. Et puis qu'est-ce qui peut se passer si c'est un humain qui manipule tout ça. Donc c'est arrivé comme ça. L'autre élément, alors...
L'autre élément, on en parlera juste après.
Ouais, d'accord, donc, Désolé.
Non, pas de soucis. Et donc pour vous, ces fourmis, qu'est-ce qu'elles ajoutent au personnage, à son caractère, à sa profondeur ?
Moi, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a l'enfermement, parce que les fourmis sont dans des vivariums. Il y a un moment, le fait que c'est insupportable d'être enfermé comme ça, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut s'évader, il faut sortir de ça. Et le troisième point, c'est la perversion de ce que lui va faire avec les fourmis. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va lâcher un des vivariums dans l'autre, quoi. Et il prend un plaisir, ouais, malsain, on va dire ça comme ça, un plaisir pervers à voir la destruction d'une colonie par l'autre. Et moi, au niveau de l'écriture, c'est une scène que j'aime beaucoup, même si elle est particulièrement peut-être difficile. Mais on est presque... Enfin, vous me direz ça, mais... Moi, je l'écris comme si j'étais au milieu des fourmis, je voyais comment ça se passait, quoi.
Oui, ben, en tout cas, en tant que lectrice, moi, c'est aussi comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, justement, un autre élément qui est un peu étrange, sans spoiler, bien sûr, mais à plusieurs reprises, il y a un lien avec les échecs, un lien qui est un peu étrange, des échecs qui sont un peu particuliers. Comment vous avez eu cette idée, pareil ?
Alors là, c'est pareil, je spoil en fin de compte parce que je ne l'ai pas vraiment inventé. En fin de compte, je suis tombé sur un article de presse. Il y a un russe, il y avait des meurtres en série en Russie, personne ne trouvait, le coupable. Surtout, ils n'avaient aucun lien, c'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas le lien qu'il y avait entre ces différents meurtres. La seule chose, c'est qu'à chaque personne, il lui manquait un morceau d'étoffe et un bouton. Et donc c'est le seul lien qui reliait tous ces meurtres-là. Et puis au mois d'août, le meurtrier a fait une bêtise, s'est fait choper, et en fin de compte, dans son garage, ils ont retrouvé un jeu d'échecs où il y avait sur chaque pièce un bout de tissu avec le bouton dessus. Alors moi, j'étais un peu plus loin, c'est-à-dire que le jeu d'échecs, il y a les pions, il y a les fous, il y a les tours, il y avait les rois et les dames, et donc j'ai donné entre guillemets une couleur... et une forme à ces différents objets. Donc mon personnage va tuer des gens, va récupérer je ne dis pas quoi, pour symboliser en fin de compte ces pièces d'échecs.
Et toujours dans le récit aussi, donc le personnage principal, Eddie, il prend position dans un débat qui actuellement est toujours important dans la société, qui est la question de l'acharnement médical, de l'euthanasie, tout ce qui est autour de ce débat. C'est un débat qui vous tenait à cœur.
Alors, dans tous mes livres, il y a des idées personnelles. Alors, c'est un débat qui me tenait à cœur, mais qui me tient toujours à cœur. Hein, je fais d'ailleurs une partie d'une association qui réclame la mort dans la dignité. Donc, voilà. Donc, alors, après, je ne suis pas un défenseur, je ne vais pas le point lever, je ne vais pas manifester, je suis pas... Mais dans tous mes bouquins, et c'est d'ailleurs ce qui a plu à un moment ou à un autre à l'éditeur Belfond, et c'est pour ça que je suis édité maintenant chez eux, c'est qu'il y a... Alors, moi, je ne donne pas des messages, hein, ce n'est pas mon truc, mais je vais apporter mes propres opinions sur un sujet ou... Bah voilà, on sait ce que je pense sur l'euthanasie, on sait ce que je pense sur l'acharnement thérapeutique. Bon, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi.
Oui, effectivement, c'est assez clair dans le livre. Toujours pour parler de l'intrigue, etc. Sans en dire trop, le tueur, c'est un homme qui est normal, un homme qu'on pourrait croiser un peu à chaque coin de rue. C'est important pour vous que ce soit un homme normal et pas un homme totalement dérangé, comme on peut avoir l'image parfois de manière un peu trop caricaturée dans certains ouvrages ou dans certains films.
C'est ça qui est le plus terrible en fin de compte. C'est que voir une personne, enfin rencontrer quelqu'un, passer dans la rue, croiser quelqu'un, tout à fait normal, et en fin de compte, ça peut être le pire des pires. Ouais, ça j'aime bien. Alors j'ai ces idées-là aussi dans d'autres livres. L'idée, c'est justement d'être confronté à quelqu'un dit normal et en fin de compte qui ne l'est pas, mais qui représente une forme de normalité, quoi. C'est le pire, c'est pervers.
Oui, c'est peut-être ce qui fait le plus peur en fait en lisant le livre. Toujours pour parler du livre, il se passe à Brest en majorité. Pourquoi choisir Brest comme cadre?
Alors déjà, moi je suis pas fan de ce qu'on appelle le polar régional, dans le sens syndicat d'initiative. Vous savez, des livres où en fin de compte un éditeur va demander à l'auteur « Tiens, j'aimerais bien que ton histoire se passe dans tel lieu. Il faudrait qu'il sorte au mois de mai parce qu'il y a les touristes qui arrivent au mois de juin. » Enfin, voilà, etc. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était une forme d'ambiance. Et puis, à cette époque-là, j'habitais Brest. Alors maintenant, je suis devenu un traître parce que j'ai traversé les Dordes, j'habite Plougastel. Mais Brest, c'est, je ne suis pas né ici, hein, mais c'est une ville qui m'a accueilli. Et puis... souvent on dit Brest c'est pas beau, mais en fin de compte quand on y est on repart pas, quoi. Donc il y a bien quelque chose. Et puis alors j'en ai fait un autre encore qui s'appelait Parasite, qui est encore plus ancré dans Brest parce que c'est dans les souterrains qui existent d'ailleurs. Non, là j'avais envie de mettre ça à Brest parce qu'il y a un climat en fin de compte qu'on retrouve ici sans avoir ce côté démonstratif, on va prendre telle rue, on va visiter la place de la Liberté, etc. ça m'intéresse pas. Mais les gens qui connaissent à peu près ont dû retrouver des endroits, ouais.
Et justement, en parlant de climat, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de polars qui se passent en Bretagne, comme si c'était un lieu qui était propice, parce qu'entouré de mystères, entouré de... Ouais, peut-être de folklore. C'est quelque chose que vous aviez en tête, ou que vous avez ressenti pendant l'écriture de ce livre?
Au niveau folklore, c'est pas trop mon mot. Non, moi, c'est les ambiances, enfin, c'est le ressenti. Alors, on dit souvent qu'il pleut beaucoup à Brest, bon. Mais le côté brouillard, le côté un peu sombre, ça fait partie des ingrédients du polar. Et je pense qu'à Brest, d'ailleurs, il y a plusieurs bouquins qui sont sortis qui se passent ici. Et il y a un climat, enfin, pas un climat, il y a une ambiance, on va dire, intéressante dans cette ville, ouais.
Oui, c'est vrai que le côté brume, le côté, ça peut rajouter du mystère.
Ouais, puis il y a eu des films qui ont été faits à une époque, dans les années 50-60, qui se passent ici à cause de ça. C'est un port. Il y a aussi l'ambiguïté du port militaire, secret, et puis il y a aussi tous ces souterrains. Il y a cette ville qui a été complètement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale sur les débris, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas enlevé, ils ont tout ce qu'on a là, en fin de compte, dessous, c'est l'ancienne ville. Donc il y a des parts de mystère qui sont intéressantes à traiter quand on fait un peu de polar. Ouais.
Et justement, en parlant de polar, tout à l'heure vous disiez que vous êtes mis assez tard à la lecture de polar. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire du polar, du coup, et pas d'autres types de récits?
Alors moi, ce que j'aime dans le polar, c'est le côté, c'est la noirceur des personnages, en fin de compte. C'est-à-dire, dans tous mes bouquins, j'ai un personnage central. comment dire ça, c'est... Alors moi, quand je suis dehors, je suis pas quelqu'un de très courageux, mais quand je suis devant mon ordinateur et dans mon bureau, je peux aller très loin dans la noirceur, même dans la dureté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ressortir ce qu'il y a dans la tête, on va dire, le côté malsain de certaines personnes. Mais là où il y a une forme d'ambiguïté, c'est que c'est des gens qui m'attirent aussi. Et donc, mes personnages... j'espère, ne sont pas manichéens, c'est-à-dire mon méchant, quelque part, des fois on peut s'attacher à ce gars-là, on peut le comprendre, et pourtant ça reste quand même un beau méchant, quoi, si je puis dire.
Et justement, pour écrire ce personnage de méchant, mais en même temps à qui on peut s'attacher, comment on fait ? Est-ce que, par exemple, vous êtes documenté sur... tout à l'heure, vous disiez que vous regardez pas mal de documentaires et d'articles de journaux, etc. Est-ce que vous êtes documenté sur la psychologie de certains meurtriers connus ou...
Alors, sur certains personnages, non. Mais par contre, le titre ici n'est pas anodin. La triade du bourreau, ça veut dire quelque chose en psychologie. On est sur ce qu'on appelle le triangle dramatique.
Justement, c'était ma question après.
Ah bon, pardon.
Non, mais pas de soucis. Bon. Du coup, pour aller dans votre sens, la triade du bourreau, donc c'est persécuteur, victime et sauveur.
Voilà.
Vous pouvez nous expliquer du coup...
Alors, en fin de compte, c'est un jeu théoriquement à trois, c'est-à-dire que il y a une personne, le persécuteur, qui va harceler, mettre en difficulté une personne. C'est un peu du pervers narcissique aussi, hein, c'est-à-dire que lui faire croire que tout ce qui arrive, c'est de sa faute, etc. Donc, il y a ce jeu-là. Et puis, dans la triade du bourreau ou dans le triangle dramatique, il y a un troisième personnage qui est les sauveurs. Et qui vient en fin de compte aider la personne, la victime, à se sortir de tout ça. Et quand je suis tombé sur cette petite partie qu'on trouve, vous tapez sur internet triangle dramatique, vous tombez dessus, est venue justement cette idée de dire, mais trois personnes, est-ce que la plus grande perversion, c'est qu'il n'y en ait pas que deux ? C'est-à-dire, est-ce que le persécuteur ne peut pas jouer à être aussi le sauveur et en fin de compte à faire plonger encore plus sa victime, quoi. Ouais, c'est tordu, hein, mais...
Non, mais c'est aussi ça qui donne la profondeur au personnage et ce côté pervers, quoi. Et justement, donc, tout à l'heure, quand vous racontiez l'histoire, vous expliquiez qu'au départ, ça part d'un archiviste à qui on demande de faire des recherches sur une femme. L'histoire de cette femme, est-ce que c'est une histoire vraie, à partir de laquelle vous êtes inspiré, ou c'est totalement fictif ?
Non, là, c'est complètement fictif, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais mes éléments, j'avais le triangle dramatique, j'avais les fourmis, j'avais le fameux gars avec son échiquier, et je me dis comment je vais faire pour réunir tout ça. Et puis, j'avais cette idée aussi de pouvoir mettre un peu de choses particulières sur l'euthanasie, etc. Et en fin de compte, à un moment ou à un autre, je mets ça dans un shaker, en fin de compte, puis il faut attendre que ça se décante, voilà, alors je peux pas vous dire sur ce livre-là à quel moment ça s'est déclenché, mais et des fois ça peut durer longtemps, hein, c'est-à-dire que j'ai des fois des choses tellement antinomiques ou tellement opposées que je me dis mais j'y arriverai jamais. Ça m'est arrivé d'abandonner d'ailleurs, hein, sur certains livres, hein, et je vous dis pas le côté jouissif quand on se réveille un matin ou quand il y a un truc qui se passe dans un journal en disant ouais, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, et sur celui-là, là, par contre, c'est complètement inventé sur la partie de la jeune fille.
Et justement, pour parler de ce shaker avec tous ces mélanges, moi, il y a certaines scènes, dont une qui m'ont fait penser à des œuvres, soit cinématographiques, soit littéraires. Il y a une scène notamment qui m'a beaucoup fait penser à une autre scène de Orange Mécanique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré ? Est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres livres qui vous ont inspiré ?
Voilà, alors en fin de compte, je ne le fais pas forcément exprès, mais quand vous parlez de la scène d'Orange Mécanique, moi c'est un film que j'ai vu quand il est sorti. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc il est un peu vieilli, on va dire. À l'époque où je l'ai vu, purée, ça marque, quoi. Et oui, en écrivant, je savais que j'allais, entre guillemets, pomper ça à Orange Mécanique. C'est sorti dans d'autres films, hein, dans d'autres bouquins. Enfin, quand il n'y a pas beaucoup de solutions pour provoquer ce que j'ai fait, hein, je ne vais pas dire quoi, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, voilà. Et puis, oui, alors des fois, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me marquent dans des films, dans des bouquins, etc. Je ne marque pas, mais quand je suis en train d'écrire, ça ressort à un moment ou à un autre. Alors après, je pense que dans le polar, on a à peu près tout inventé. On a tous les ingrédients sont là et les auteurs en fin de compte font ce mélange là différent quoi. Hein, c'est pas ouais j'ai un peu pompé mais c'est pas fait exprès.
Mais c'est très bien écrit donc c'est déjà.
Merci.
C'est ce qui compte. Et bon, pour revenir sur la forme un peu, tout le roman est une alternance entre Eddie qui parle au présent, ce que vous appelez le journal d'un nettoyeur, écrit donc sous la forme d'un journal qui raconte des faits du point de vue du meurtrier, et enfin une sorte de monologue intérieur, sans qu'on sache trop à qui ce monologue appartient, au début en tout cas. Pourquoi ce choix d'alterner ces trois formes d'écriture ?
Alors, c'est... Là aussi, je voulais... Enfin, quand j'écris, sauf exception... Faire un livre linéaire, ça ne m'intéresse pas vraiment, quoi. C'est-à-dire que embarquer quelqu'un comme un road movie, c'est-à-dire on commence à telle date, on vit les journées, les semaines après, etc. Moi, j'avais envie un peu, entre guillemets, de fantaisie et de m'amuser avec le lecteur, en fin de compte. Alors, des fois, je fais des livres où il y a du présent et des flashbacks. Là, c'est encore plus compliqué sur celui-là parce que il y a un mélange de tout ça. Mon éditeur avait voulu que je retravaille ça, j'ai dit non parce que un mot un autre c'est un truc j'ai eu du mal quand même à travailler tout ça pour que ça soit cohérent. Alors le risque c'est de faire perdre le fil au lecteur, mais je pense pas. Mais c'est vrai que sur une bonne partie du livre on se demande mais attends, il est parti où, comment tout ça va se réunir, et en fin de compte le lecteur dans ces cas-là il continue à lire quoi, et il tourne les pages. Et quand on me dit « j'ai lu votre livre en deux jours, trois jours, une semaine », moi j'ai mis six mois à l'écrire, mais ça me fait vachement plaisir qu'on ait lu le bouquin très très vite, quoi. Ça veut dire que le mécanisme fonctionne.
Et là, à l'instant, vous parlez de réécriture. Pour la petite histoire, donc là, ce livre il est sorti en juillet 2020, mais en fait c'est une réédition, c'est une réécriture, parce que le livre, originalement, il est sorti en 2008. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette histoire ?
Alors, en fin de compte, en 2008, j'étais encore auto-éditeur. Donc, avec le défaut... Enfin, l'auto-édition, il y a deux défauts principaux de mon point de vue. C'est qu'il n'y a personne de professionnel qui est capable de lire votre ouvrage dans votre manuscrit et vous permettre d'avoir un recul dessus. Et le deuxième critère, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas de relecture au niveau correction... travail sur l'écriture, etc. Donc, en fin de compte, celui-là était sorti en 2008, auto-édition. Moi, j'avais une petite maison d'édition qui s'appelait Les Éditions du Barbu. Bon, voilà, ça, on sait pourquoi. Et puis, alors j'étais fier de ce livre-là parce que c'était le premier livre qui a été sélectionné à Cognac, au Festival du Polar de Cognac. Depuis, j'ai eu d'autres sélections et puis j'ai eu un prix, là, cette fois-là, l'année dernière, pour un autre livre. Et donc, je considérais que c'était mon premier livre... qui valait la peine. Et en fin de compte, Stéphane Batigne, qui est l'éditeur de Trinox, complètement par hasard, moi je le connaissais parce qu'on s'était vu sur des petits salons, mais complètement par hasard, dans une bibliothèque, il trouve la première version. La bibliothèque se séparait de ses anciens livres. Il le lit et il me dit « Est-ce que ça t'intéresserait de le ressortir chez moi ?» Alors j'ai dit « Oui, à une condition que je le réécrive complètement. » Et c'est un exercice assez intéressant. Moi je connais mes défauts maintenant, donc je sais comment les travailler, les retravailler, et c'est un exercice particulier, mais en plus l'histoire je m'en souvenais plus avec le temps, donc j'ai tout redécouvert. Il a fallu que je le relise complètement avant de le réécrire parce que je me dis voilà, je vais aller où, et puis oui là je suis content de l'objet quoi. C'est, voilà, ça fait partie de ce que je peux faire maintenant quoi.
Et justement, dernière question, est-ce que pour les mois qui viennent, les années qui viennent, vous comptez ressortir d'autres livres écrits au même moment que celui-ci initialement, donc avant 2008, pour les rééditer ?
Alors, il y en a déjà un qui est ressorti chez Belfond, alors qui était plus récent, ça s'appelait Pulsion Saline, et ça se passait sur un bateau de pêche avec des anciens militaires français qui arrivent d'Afghanistan et qui sont complètement traumatisés. Ils vont monter sur un bateau de pêche pour vivre une aventure qui devrait logiquement les soulager. Ça va bien sûr pas être le cas. Et en fin de compte, quand j'étais édité chez Belfond, ils m'ont demandé si je pouvais leur fournir quatre de mes anciens livres. Hein, et au cas où, voilà. Et ils ont vachement bien aimé Pulsion Saline. Et là, pareil, ils m'ont demandé de le retravailler. et il est sorti en octobre 2018, je crois, sous le nom de La mer qui prend l'homme. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Chers amis. Alors, Chers amis, C-H-A-I-R-S, et amis sans E, A-M-I-S. Là, on est dans un monde de perversion assez, assez fort. Si j'en avais personnellement un à retravailler, ce serait celui-là. Mais c'est sûrement le plus dur que j'ai écrit. Mais mes lecteurs, si je fais un petit sondage, enfin comme ça, je pense que c'est le livre qui les a plus marqués, le plus marqué, pardon. Et ouais, si j'avais envie de retravailler celui-là, ouais, peut-être.
Peut-être, oui. Donc pourquoi pas aller venir un jour dans les librairies.
Ouais, voilà. Alors peut-être sous le même titre. C'est le titre que j'aime beaucoup, en fin de compte, mais.
Oui, donc on verra si, si on le retrouve en librairie ou ailleurs. Merci beaucoup, Christian Blanchard.
Merci.
C'était donc Christian Blanchard, auteur du roman noir La Triade du Bourreau, sorti aux éditions Trinox en juillet 2020. Et on écoute Blow du groupe Les Amirals. Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Je le disais dans la présentation de l'émission, rares sont ceux qui ont pu échapper à un article, une émission ou même un tweet concernant ce qu'on appelle la loi contre le séparatisme. Quelle influence ce projet de loi pourrait avoir sur les associations? C'est la question que se pose le mouvement associatif dans une tribune sur France Info. Lundi dernier, notre confrère Jean-Christophe Sarraud de Plume FM recevait Yannick Bigouin, délégué régional du mouvement associatif de Bretagne.
À la suite de l'assassinat de Samuel Paty, c'était à la fin de l'année dernière, comme souvent dans de pareils cas, l'exécutif a dégainé un projet de loi censé répondre à l'émotion collective. Ce texte de loi, appelé au départ projet de loi sur le séparatisme, désormais rebaptisé texte de loi confortant le respect des principes de la République, a été présenté en Conseil des ministres, c'était le 9 décembre dernier, et c'est aujourd'hui, lundi 1er février, que débute son examen à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs semaines, nombreux sont les acteurs de la société civile à alerter sur la dimension liberticide de ce projet de loi. D'ailleurs, tout le week-end, il y a un certain nombre de manifestations. Pour bien comprendre les enjeux de ce texte et les menaces qu'il fait peser sur nos libertés individuelles, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Yannick Bigouin, le délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Bonjour Yannick Bigouin, bienvenue sur notre antenne.
Bonjour, merci.
Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, quelques mots sur le mouvement associatif que vous représentez aujourd'hui à nos micros.
Alors, le mouvement associatif de Bretagne, et puis le mouvement associatif en général, qui existe dans toutes les régions de France avec aussi une équipe nationale, représente la vie associative, ça en est le... Et ça rassemble les grandes coordinations et fédérations associatives de Bretagne. Donc, on peut dire que c'est la voie de la vie associative organisée.
Alors, qu'est-ce qu'il contient, ce texte de loi confortant le respect des principes de la République? Et en quoi, eh bien, vous nous alertez dessus? En quoi il fait peur?
Alors, sur ce projet, effectivement, sur ce projet de loi qui est mis en débat au Parlement actuellement, il y a des choses, nous, qui ne nous conviennent pas. Mais attention, on est prêt vraiment à travailler et à apporter des contributions à ces lois. Hein. C'est pas du tout un mode uniquement défensif. D'abord, il y a une suspicion de défiance sur la forme associative. Et plutôt que ce qui est proposé, par exemple, il y a ce qui est proposé dans la loi, c'est beaucoup de contrôle, c'est beaucoup d'instauration de contrats d'engagement républicain, alors que nous, on prône depuis le début, depuis longtemps, d'abord du dialogue, sous forme de charte d'engagement réciproque, par exemple. Et puis, dans cette loi, par exemple, il y a aussi le fait que les bénévoles seraient rendus responsables des actions individuelles des membres, ce qui pose aussi question. Et puis, il y a d'autres actions de contrôle, par exemple, sur le mécénat ou d'autres choses. Donc, il y a vraiment on trouve en tout cas sur ce projet de loi qui est mis en débat quelque chose qui freine la liberté associative et la liberté en général, alors que la loi 1901 et puis cette grande loi de liberté, la loi qui crée le monde, la vie associative, est vraiment montre que on peut s'organiser, faire des choses, mais que l'État n'est pas nécessairement à nous contrôler sur tout.
Pour que l'on comprenne bien, quand une association voudra bénéficier de mécénat ou de subvention, elle devra s'engager auprès des services de l'État, à respecter un certain nombre de principes républicains, c'est bien ça?
Oui, ce qu'on trouve normal. Hein. Par contre, on peut, évidemment, mais je trouve qu'il y a d'abord, sur le départ, on trouve qu'il peut y avoir un dialogue, plutôt qu'imposer des choses aux associations. Il peut y avoir un espace où l'État et le monde associatif peut se discuter autour de ça, mais pas uniquement quelque chose qui est très descendant comme ça, très centralisé sur le monde associatif, mais sur le mécénat, mais pas que là-dessus, mais il y a aussi sur, de manière générale, sur l'engagement bénévole et sur le fait de la responsabilité encore plus forte des responsables associatifs.
Que le comprenne bien, encore une fois, qui est visé par ce texte de loi? Est-ce que c'est l'ensemble du mouvement associatif, ou alors c'est quelques associations qui ne rentreraient peut-être pas dans la ligne de l'État, ou qui feraient craindre à l'État pour sa sécurité?
Ben justement, c'est le souci, parce que de fait, ça va impacter l'ensemble des associations. Hein. Il y a 1,2 million associations en France, 80 000 en Bretagne, tout le monde sera concerné de fait, il n'y a pas de différenciation. Et c'est ça qui nous pose question, parce que il y a nombre, on pourrait contrôler, entre guillemets, on pourrait regarder les associations qui sont subventionnées, des associations qui ont des contrats avec l'État, etc., ça, qui sont fédérées, là on les contrôle, mais il y a 50% du monde associatif qui est hors cadre, qu'on ne sait pas exactement, et celles-là, pas de fait, on n'arrive pas à les avoir, et la loi du coup sera pas opérante, puisque ce sont pas ce type d'associations qu'on va viser, mais uniquement les associations qui sont organisées, structurées, qui ont conventionné avec les collectivités, avec l'État, de fait. Donc, on trouve que ça va tomber à côté, parce que effectivement, l'État, je pense, vise, et ce qui peut se comprendre, des associations, alors on va dire le mot communautariste, en tout cas des associations liées à ce qui s'est passé dans ce pays sur l'islam radical, ça peut tout à fait s'entendre, mais je suis pas sûr que la loi va toucher, va avoir des conséquences sur ce type d'association, mais bien l'ensemble et celles qui font un travail justement de valeur républicaine.
Puisque ce contrôle, vous le disiez à l'instant, existe déjà pour bon nombre d'associations.
Oui, on aimerait bien que... Enfin, quand on parle de contrôle, ce mot n'est peut-être pas adéquat, mais en tout cas, le dialogue, il existe et on vise à le renforcer, le dialogue avec l'État et les collectivités publiques. Je vous rappelle quand même que sur l'ensemble des associations, il n'y a que 20% des associations qui sont subventionnées. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'associations, et c'est une chance dans ce pays, parce qu'ils portent les valeurs de la République, hein. Ils portent la liberté, la fraternité, voilà, ils incarnent totalement la République. D'ailleurs, ça a été construit sous la Troisième République, et c'était vraiment une volonté de encore plus incarner les valeurs républicaines. Mais je vous le redis, le contrôle qui est placé, ce projet de loi qui va contrôler non pas les associations qui sont visées, mais d'autres et l'ensemble. Et de fait, nous, on trouve que ce n'est pas la place de cette loi d'aller contrôler, effectivement, puisque c'est le mot, c'est l'objet de cette loi, des associations qui portent au contraire les valeurs républicaines. Il faut, à notre, de manière opposée, aller chercher des associations qui ne sont pas dans le giron des structurations incitatives, fédératives de coordination, mais d'une autre manière, aller voir ailleurs pour avoir une loi qui soit différenciée pour les associations qui sont vraiment, on peut dire, communautaristes, puisque c'est vraiment ces associations-là qui sont visées.
Vous le disiez il y a quelques minutes, Yannick Bigouin, l'idée c'est de ne pas tout rejeter en bloc, mais bien d'être force de proposition. Elle se situe à quel niveau vos propositions et comment vous imaginez aujourd'hui pouvoir influer sur ce texte qui, je le rappelle, dont le débat commence aujourd'hui au Parlement?
Bah nous, on a fait une proposition, enfin différentes propositions d'amendement auprès des parlementaires bretons, hein, sur par exemple renforcer l'accès aux formations qui visent les valeurs de la République. Pour l'ensemble des associations, il y a beaucoup d'associations qui travaillent là-dessus, donc on peut encore aller plus loin, ouvrir un travail conjoint avec aussi avec les organismes et les administrations de l'État qui travaillent sur les questions de discrimination, des dérives sectaires, puisque c'est ça l'objet en fait, hein. Donc encore plus aller plus loin là-dessus et renforcer l'implication des réseaux associatifs dans les cellules de lutte contre la radicalisation au niveau territorial, parce qu'en fait ce dont on a peur, c'est que ce projet de loi, s'il est adopté, vise vraiment les associations qui font justement le travail de développement, de cohésion sociale, de renforcement de la société, d'engagement de millions de bénévoles. Et de fait, ça pourrait tout à fait freiner et démotiver nombre de bénévoles dans nos associations.
Que l'on comprenne bien la position du mouvement associatif. Tout le texte est à jeter, ou alors c'est quand même un texte de loi qui a sa place, qui répond à un besoin?
Non, il y a des choses à apprendre. On comprend évidemment les préoccupations de l'État. Attention, on n'est pas du tout irresponsable par rapport à ça. Mais il est à ajuster, à retravailler. Hein, on a redonné, nous, des ajustements par rapport à ça. Tout n'est pas à retirer. Mais nous, on le redit, ça ne peut pas être descendant. On ne peut pas dire aux associations, sous contrôle comme ça, qu'ils soient imposés. Il faut des espaces de dialogue, de compréhension, pour pouvoir avancer ensemble. Et ça, on le réclame depuis des années. D'ailleurs, on a signé avec l'État une charte d'engagement réciproque, hein, 2008, et on voudrait justement qu'elle soit vraiment incarnée et qu'on aille encore plus loin dans le dialogue, autant avec l'État qu'avec toutes les collectivités.
Et vous invitez donc, par là même, les associations à s'imposer, à s'immiscer dans le débat, notamment en informant leur réseau, au moyen d'une synthèse que vous proposez sur votre site internet, lemouvementassociatif.org.
Oui, voilà. J'invite toutes les associations à venir s'approprier ce projet de loi, aller voir les parlementaires, leur en parler, parce que les conséquences peuvent être vraiment importantes dans leur vie au quotidien, en particulier pour la responsabilité des dirigeants associatifs. Mais de manière générale aussi, il faut construire un dialogue avec les pouvoirs publics de plus en plus, parce que tous les deux, pouvoirs publics et monde associatif de manière générale, portent justement l'intérêt général. Et du coup, on doit y aller en binôme, pour encore plus créer de la cohésion sociale et encore plus mieux travailler pour notre territoire.
Donc justement, vous parlez des parlementaires. Vous pouvez solliciter vos parlementaires à travers un courrier dont vous proposez le modèle sur votre site internet, là encore, lemouvementassociatif.org.
Bien sûr, oui. Nous, on a un courrier type. Il ne faut pas hésiter à nous le demander. Hein. Vous pouvez aller voir le parlementaire de votre circonscription avec ce courrier. Après, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Mais voilà, les parlementaires, je pense qu'ils apprécient aussi d'être interpellés par les habitants. Hein. C'est aussi ça, le dialogue civil entre les élus et puis nationaux et puis les habitants, et leur faire des propositions. Voilà, j'ai eu quelques retours de parlementaires bretons qui étaient très très attentifs à ce qu'on leur a proposé. Donc moi, je suis optimiste par rapport à ce dialogue et à cette co-construction, on peut dire, de loi.
La position du mouvement associatif que vous avez remarquablement synthétisée aujourd'hui sur notre antenne, eh bien, elle est disponible également. On peut la retrouver dans une tribune qui a été publiée le 18 janvier dernier. C'était sur France Info.
Voilà, on a une tribune, enfin, qu'on a mis aussi un petit peu partout. On a diffusé la tribune en disant, là, c'est plus lié à la conséquence, aux conséquences de la crise sanitaire. Et se dire qu'effectivement, on est empêché pour beaucoup de se réunir, de faire nos activités, de tout ce qu'on peut faire, les 80 000 associations bretonnes, les 100 000 emplois qui existent en monde associatif en Bretagne. Mais se dire qu'il ne faut pas, il faut braver la tempête et voilà, se réunir encore plus, se rassembler. Donc j'invite là le monde associatif à rejoindre une fédération, une maison des associations, peu importe en tout cas, à se rassembler pour affronter cette épreuve qui vraiment a des conséquences dramatiques pour notre région, et ailleurs aussi, dans toute la France, bien entendu. en termes d'animation, de festivals, de fêtes de toutes sortes, mais et de services rendus à la population. De fait, il nous faut continuer et ne pas baisser les bras. Voilà, c'est le message qu'on voulait faire passer à l'ensemble du monde associatif. Et il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour nous demander des conseils. Parfois, il y a des choses très simples qu'on peut apporter pour se réunir en visioconférence, même si ça a été aujourd'hui beaucoup approprié. Mais après, il y a des aspects juridiques aussi, donc on peut aussi répondre à ça.
L'examen de ce projet de loi commence donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a une idée du calendrier. Est-ce qu'il y a un calendrier qui est arrêté, notamment pour la navette avec le Sénat?
Alors, je l'ai pas tout à fait en tête. Je sais qu'effectivement, le débat parlementaire commence aujourd'hui parce que moi, je suis juste un Breton. Je ne suis pas dans l'équipe nationale. Mais on voulait alerter dès le début hein, de la navette parlementaire. Enfin, en tout cas, de l'examen de loi à l'Assemblée nationale. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Je n'avais pas exactement le calendrier en tête. Mais il ne faut pas traîner pour alerter ces parlementaires, enfin, ces députés et ces sénateurs, si on veut. Le plus vite possible, parce que le plus vite possible, ça sera fait, plus vite on pourra déposer des amendements.
Eh bien, le message est passé. Yannick Bigouin, je rappelle que vous êtes le délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Merci beaucoup de nous avoir alerté aujourd'hui sur l'antenne de Plume FM.
Merci à vous et au plaisir. Au revoir.
Et on vous souhaite une réussite dans votre combat.
Pour aller plus loin, vous pouvez aller jeter un œil à la tribune de plusieurs universitaires et associations, publiée dans Libération le 21 janvier. Par ailleurs, pour en discuter, nous avons essayé de contacter Jean-Charles Larsonneur, député Brest-Centre affilié à la majorité, mais celui-ci a décliné notre offre, je cite, au regard de l'actualité parlementaire et de sa mission d'information en cours, ainsi que des contraintes liées à son agenda chargé.
Vibes are taking over. Hey. 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 Take it for a ride on the side. Vibes are taking over. Hey. 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 Take it for a ride on the side.
Vous êtes sur Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites. On écoute le reportage de la série Le littoral autrement, consacré aux acteurs du monde maritime en Bretagne. Le Tara est une goélette de recherche scientifique. Naviguant sur toutes les mers du monde, elle explore les océans pour mieux les comprendre et les préserver. Depuis 2006, la Fondation Tara développe une science de l'océan pour mieux anticiper et mieux gérer les risques climatiques à bord d'un véritable laboratoire scientifique flottant. Étudiant les microplastiques en mer, le plancton ou encore le corail, elle a déjà parcouru plus de 400 000 km lors de 12 expéditions scientifiques. Le 12 décembre 2020 dernier, un équipage de marins et de scientifiques se sont lancés dans une 13e expédition en Atlantique Sud pour mieux comprendre le microbiome océanique. Un voilier de 36 mètres, un grand laboratoire flottant qui sillonne les océans depuis plus de 10 ans pour mieux comprendre la biologie marine, nous montons à bord du Tara pour découvrir toute l'originalité de cette goélette océanographique. Entre aventure maritime et innovation scientifique, Samuel Audrin, capitaine du navire, nous présente la belle histoire et l'équipage de Tara.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Quand on est parti sur Tara Océan, l'idée c'était de refaire une expédition comme Darwin, mais sur le tout petit. Voilà, c'était l'idée d'un scientifique, Eric Kersanti, qui était le chef de cette mission-là. C'était repartir comme une expédition de l'époque, et voilà, de donner un nouveau souffle aussi à la recherche actuelle, quoi.
Un voilier de 36 mètres, un grand laboratoire flottant qui sillonne les océans depuis plus de 10 ans pour mieux comprendre la biologie marine. Nous montons à bord du Tara pour découvrir toute l'originalité de cette goélette océanographique. Entre aventure maritime et innovation scientifique, Samuel Audrin, capitaine du navire, nous présente la belle histoire et l'équipage de Tara.
Je m'appelle Samuel Audrin, je suis capitaine du navire Tara et du coup je travaille sur ce bateau depuis à peu près 15 ans. Voilà. J'ai eu la chance de passer sur différents postes. Je suis arrivé avec des compétences de voileux, donc je me suis retrouvé au pont. Et rapidement, je suis rendu compte qu'en fait, le Tara, c'était pas qu'un bateau à voile. Il y avait pas mal de technicité. Donc, je suis retourné faire une formation en marine marchande pour devenir mécanicien. Et petit à petit, je suis devenu second, puis capitaine. Tara, en fait, c'est une histoire qui a débuté il y a un peu plus de 30 ans avec Jean-Louis Etienne. À l'époque, le bateau ça s'appelait Antarctica. Et donc, l'objectif de ce bateau, finalement, ce pourquoi il a été conçu, c'était pour refaire un projet qui avait été fait plus de 115 ans auparavant par Nansen, un Norvégien avec un bateau qui s'appelait et qui s'appelle encore, parce que c'est un musée du côté d'Oslo, le Fram. Et donc, le Fram, il y a plus de 115 ans, avait fait ce qu'on appelle la dérive arctique. C'était, à l'époque, c'était la conquête des pôles. Donc, Nansen a eu l'idée de concevoir un bateau qui était capable de se faire prendre dans les glaces pour pouvoir dériver avec cette banquise qui avait l'air de dériver en direction du pôle. Voilà, et donc l'idée de Jean-Louis Etienne, c'était de refaire cette mission-là, avec des moyens plus modernes, bien évidemment. Et donc, ça a donné naissance à Antarctica. Et voilà, donc Jean-Louis, il a fait plusieurs missions, il a gardé pendant 10 ans. Malheureusement, il n'a pas pu faire cette dérive arctique. Il a vendu le bateau à Peter Blake, qui lui est parti, pareil, sur des missions de sensibilisation à l'environnement, découvertes scientifiques, etc. Et malheureusement, il est décédé à bord à cause d'un problème de piraterie. Et donc Agnès B. et son fils Étienne Bourgois ont acheté le bateau il y a 17 ans, avec comme objectif de lui permettre de continuer ce pour quoi il avait été fait, hein, c'est-à-dire de la recherche scientifique, de la sensibilisation à l'environnement, etc. Et donc voilà, donc ça a été une de nos premières grosses missions que de partir vers le pôle Nord pour faire cette dérive arctique. Et à la différence de Nansen, avec Tara, on a dérivé pendant un an et demi, et Nansen, lui, c'était 3 ans. Tout simplement parce que les conditions ont évolué, la banquise est moins épaisse, donc tout bouge plus vite. Et bon, voilà, on est en chantier, là, on est en train de préparer le navire pour la prochaine mission. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu dans tous les sens. Et donc là, dans cette partie-là, c'est la partie emménagement. Donc ici, on a 8 cabines doubles. Voilà, donc chacun partage sa cabine avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Hein. Voilà, ici on a 2 toilettes, 2 douches. Voilà, c'est un navire plutôt agréable à vivre. Hein. Y a une histoire de promiscuité importante, bien évidemment, mais bon, c'est un super outil de travail. Le Tara, c'est un voilier. Hein, c'est une goélette de 36 mètres, 10 mètres de large, il y a 2 mâts de 27 mètres de haut. Et donc c'est avant tout un voilier. Donc on essaye d'optimiser les navigations avec le vent. Sur la plupart des missions, on est 16 à bord. Donc ça fait une équipe de marins, 5 ou 6 marins en fonction de la mission. Donc c'est des marines marchandes. Hein. On est un navire de charge spécial, un navire océanographique. Et à ça, on ajoute 7 scientifiques à peu près. Et puis, comme je viens de dire, un correspondant de bord, un artiste aussi, pour partager le projet avec un autre regard. Et donc oui, c'est assez diversifié, c'est assez riche. Et c'est vrai qu'on emmène des gens qui ne sont pas forcément marins, voilà, qui vont se découvrir marins. Tara, c'est comme un navire qui a 30 ans. Donc si on parle d'innovation, je dirais plutôt que c'est la manière de travailler, l'innovation. Tara, finalement, c'est un petit bateau de travail. Hein, pour un bateau océanographique, c'est pas très grand. Pour un voilier, c'est grand. Mais pour un bateau océanographique, c'est un petit bateau de travail. Et finalement, ce que ça nous permet de faire en plus que les autres, c'est de partir loin et longtemps. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas affréter un bateau océanographique pendant 2 ans et demi. Et nous, c'est cette plus-value qu'on apporte. On va pouvoir partir sur des missions très longues, avec des coûts moindres, bien évidemment, parce qu'on est un petit bateau. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que pendant toutes ces missions-là, on va pouvoir échantillonner de la même manière tout le temps, ce qui va permettre aux scientifiques de comparer les échantillons du début jusqu'à la fin de la mission.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie encore Christian Blanchard d'être venu nous présenter son roman « La triade du bourreau » et notre confrère de Plume FM, Jean-Christophe Sarraud, pour avoir interviewé Yannick Bigouin, délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une bonne soirée en écoutant les sportifs du lundi sur le 101.1 FM.
Absolument.